Et là, dans mon chagrin et jeûne magique, notez bien le vocabulaire de David, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. Verset 5. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Chair de poule. Je dis oh. Est-ce que vous pouvez dire ça avec moi? Oh. Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin. J'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en tout hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Et si vous voulez colorier quelque chose, souligner quelque chose, mettez juste la tempête. Car c'est ce qui nous intéresse ce matin. Elle s'appelle Sandra. Elle a 57 ans. Elle est maman de 2 enfants. C'est une chrétienne convaincue, engagée. Et je la connais depuis de longues années. Je me demande même si ce n'était pas moi qui l'avais présentée au Seigneur. Et elle est atteinte d'un cancer du sein. Il a subi l'ablation d'un sein. Et lors des récents examens, on a découvert le cancer était de retour. Coup de tonnerre, déception, souffrance. Notre chère sœur, elle se trouve au beau milieu d'un ouragan ou d'un cyclone, si vous voulez. Frères et sœurs, une chose que j'ai dû apprendre en arrivant ici aux Antilles, c'est qu'il y a une saison de cyclone. Ça commence plus ou moins au mois de juin, ça se termine octobre, novembre, mais je sais une chose d'habitude, si la nature se tient au calendrier, il y a un début et il y a une fin. Mais quand il s'agit de notre vie, frères et sœurs, il n'y a pas de calendrier pour les tempêtes. Il n'y a pas de calendrier pour les ouragans, pour les cyclones. Ils peuvent éclater à n'importe quel moment. Et ce que notre chère sœur, qui d'ailleurs, donc j'ai eu un entretien avec elle il n'y a pas bien longtemps, et vous savez, elle a évoqué très sobrement la possibilité de la mort. Donc, c'est quelqu'un qui est prévenu, si vous voulez. Exactement comme David dans notre psaume. Donc, David, si vous avez bien compris ces quelques versets d'ouverture, se trouve au beau milieu d'un cyclone, d'une tempête. Et pour lui, ce qui est important, c'est de savoir comment rester debout dans la tempête. Et frères et sœurs, ça c'est aussi donc le titre de mon message, « Restez debout au milieu de la tempête ». Est-ce que vous avez noté d'ailleurs un peu son vocabulaire? Je juste quelques extraits. Il parle d'un cœur qui est là, qui frémit au-dedans de lui. Il y a les terreurs de la mort qui le visitent, il a les frissons, etc. David, il est intéressé au milieu de ce cyclone, comment puis-je rester debout? Alors, je voudrais vous proposer trois titres, trois sections. Nous allons tout d'abord parler de la tempête de David, qui est un véritable modèle pour nous, parce que nous tous, nous en avons connu et nous connaîtrons encore. Ensuite, nous avons l'envie de fuir, n'est-ce pas? Et puis, parce que ça, c'est inné en nous, on va y revenir. Et finalement, comment gérer les tempêtes. Alors, on commence avec la tempête de David, un modèle pour nous. Il y a des années, j'ai lu un article de Bob Mumford, qui était un enseignant de la parole de Dieu que j'appréciais beaucoup. Un homme qui allait dans les profondeurs. Et le titre de son article, c'était « Standing in the whirlwind », « Se tenir dans le tourbillon ». Et il parle donc de ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'il fallait faire pour rester debout. Mais c'est surtout le titre que j'ai retenu, c'est ce qui m'a frappé, donc « Se tenir au milieu de notre tourbillon ». Alors, frères et sœurs, vous devez savoir que l'humanité, dans sa totalité, chrétienne, non chrétienne, est concernée par les tempêtes. Nous tous, nous les connaîtrons parce que nous faisons partie d'une humanité qui vit dans un monde imparfait, dans un monde qui est marqué par le péché. Mais s'il y a une différence entre le chrétien et le non-chrétien, où est la différence? C'est premièrement, nous savons que nos tempêtes peuvent agir, travailler en notre faveur. Nous pouvons nous en sortir plus riches. Nous allons revenir un peu donc à ce sujet. Et d'autre part, le chrétien peut compter sur le secours de son Dieu. Exactement comme les fils de Corée le disent au chapitre 46 des psaumes. Vous connaissez cet un de ces magnifiques psaumes quand ils disent « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur des mers. Je suis avant-hier, j'avais une conversation avec une jeune chrétienne. Elle m'a accompagné pour rendre visite à son, peut-être, son futur. Et elle a ouvert un peu son cœur, ce qu'elle vit, ce que sa sœur mariée vit. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a bien des gens, bien des chrétiens, qui passent par des moments difficiles, qui vivent des tempêtes. Et les tempêtes sont souvent de longue durée. Ce n'est pas juste 24 heures et puis tout rentre de nouveau dans le calme. Souvent, c'est beaucoup plus. Alors, je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, qu'il y a des chrétiens qui pensent que souffrir, subir des tempêtes, ce n'est pas biblique. C'est un paradoxe, c'est une contradiction par rapport à la vie abondante que Jésus est venu nous apporter. Pour eux, si Jésus nous a promis une vie abondante, elle doit être abondante. Oui, elle peut être abondante en problèmes et en tourbillons, n'est-ce pas? Mais donc, je me souviens d'avoir entendu parler d'un de ces docteurs de l'évangile de prospérité, et lui, il a dit, si Paul avait eu les révélations que lui a eues, il n'aurait pas souffert autant. Et il n'aurait pas fait la prison. Et là, vous comprenez que c'est de la présomption, c'est de l'orgueil. Cet homme n'a rien compris de l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que donc, je voudrais vous dire que la Bible tient un autre langage. Alors, je voudrais vous parler pendant un instant de Jim Baker, que j'ai déjà cité ici, célèbre télévangéliste des années 70-80, qui a fini par faire la prison à cause de malgérance, malgestion de fonds, 5 ans de prison pour le célèbre télévangéliste. Et il avoue, j'ai son livre de quelques 600 pages, son témoignage, il dit que là, j'ai eu le temps de lire et d'étudier ma Bible. Alors le télévangéliste n'avait pas le temps. Et frères et sœurs, il a dit, il a fait une déclaration, il a dit, je n'ai pas trouvé un homme de Dieu dans la Bible qui n'ait pas connu une fournaise ardente ou une fosse au lion, qui n'a pas été emprisonné ou qui n'a pas été scié en Dieu, comme on le dit du prophète Isaïe. Bref, il a voulu dire, je n'ai pas rencontré de serviteur de Dieu qui n'ait pas subi des tempêtes. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Juste avant d'aller à la croix, donc à la fin du chapitre 16 de l'évangile selon Jean, dans le monde, vous aurez des tribulations. Et regardez deux héros de la foi, Barnabas et Saul, lors de leur premier voyage missionnaire, ils retournent vers les églises qu'ils viennent de fonder, ils établissent les anciens et ils leur disent, ils ont une parole d'encouragement en disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous sommes au fond un peuple averti, n'est-ce pas? Nous pouvons nous attendre, nous aussi, à des temps de tempêtes et de tourbillons. Rick Warren, le pasteur, donc l'ex-pasteur, puisque maintenant il a cédé sa place à une relève, grand pasteur Rick Warren, il a dit à une occasion que les chrétiens se trouvent continuellement dans une des trois situations suivantes. Quelles sont ces situations? Soit nous nous trouvons au beau milieu d'une épreuve, soit nous venons de sortir d'une épreuve, soit nous sommes sur le point d'être plongés dans une épreuve. Alors, j'ai répété cela en présence de notre cher frère Jean, qui était ici il y a quelques semaines, frère Jean Smallberg de Haïti, et trouvait ça quand même un peu négatif, un peu exagéré. Bon, mais je sais ce que le pasteur Warren a voulu dire. Il a voulu dire que nous, chrétiens, nous ne devons pas être surpris quand nous passons par des moments difficiles. Alors, nous sommes avertis. Quant à David, il a formulé cette vérité d'une manière différente, et vous connaissez ce verset que je vais citer, c'est que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Nous devons savoir, frères et sœurs, qu'il existe toutes sortes de tempêtes, et donc les unes sont plus violentes que d'autres, et puis donc ces tempêtes peuvent également avoir plusieurs causes. Et je vais y revenir, mais nous devons savoir que nous pouvons même les provoquer nous-mêmes. Alors, je pense à cette personne que j'ai accompagnée par un certain temps, elle passait par une tempête conjugale, si je peux l'appeler comme ça. Et malheureusement, malgré les interventions des conseillers, tout, donc ce mariage s'est soldé par un échec, avec toutes les souffrances, les douleurs qu'un divorce entraîne. Oui, même une tempête conjugale. Et puis, vous savez qu'il y a des tempêtes d'ordre financier ou encore d'ordre professionnel. Des gens qui perdent leur emploi, par exemple. Alors, nous devons savoir, oui, les tempêtes sont là et nous sommes concernés par elles. Et bien sûr, donc, puisque nous avons parlé de Sandra et son cancer, il y a la tempête en relation avec les maladies. Et j'ai moqué une nouvelle fois ma chère petite fille qui, suite à son gliome, donc, est partie, laissant une famille plongée dans un temps de tempête, et particulièrement, bien sûr, aussi son mari. Mais il existe une forme de tempête particulièrement vicieuse et douloureuse, et c'est celle qui est causée par une trahison. Et c'est ce qui arrive ici à David. Quand vous parcourez la totalité du psaume, vous allez vous apercevoir que c'est surtout cette question de trahison qui le travaille. Et je voudrais que vous lisiez avec moi les versets 13 à 15, où nous lisons ceci, donc versets 13 à 15, c'est pourquoi je vous ai dit, gardez votre Bible ouverte, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai, ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui, c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, je peux vous dire que toute trahison est douloureuse. Il y a des trahisons qui sont particulièrement douloureuses, et je voudrais juste parler pendant un instant d'un cas. J'ai prêché dans une de nos communautés, je ne vais pas vous dire laquelle, et à la fin, j'avais à cœur de faire un appel. Une jeune femme, une jeune épouse, s'est approchée et elle m'a expliqué que lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant, une grossesse difficile, son mari lui était devenu infidèle. Couple de chrétiens. Quand elle m'a partagé ça, elle a souhaité la prière, et bien donc les larmes ont commencé à ruisseler, et donc je me suis rendu compte de la douleur, de la souffrance et des conséquences d'une trahison. Je sais que je m'adresse ici aussi à des jeunes qui n'ont pas nécessairement entendu parler de Corrie ten Boom, C'est la meilleure génération qu'elle a connue encore. Correctement, qui était une Hollandaise, et elle et sa famille ont caché les Juifs dans leur maison pendant la Seconde Guerre mondiale. Et un compatriote qui sympathisait avec les nazis, les Allemands, les ont trahis. Et donc là encore, une véritable tempête à cause d'une trahison. Juste pour résumer, le père, qui avait déjà un certain âge, il est mort en prison. Le fils a été fusillé. Corinne et sa sœur ont été emportés, transportés en Allemagne, dans la ville de Ravensbrück, dans un camp de concentration, où Betsy, la sœur, est décédée. Et Corinne, elle a été libérée par une erreur administrative. Une véritable tempête. Mais le Seigneur, il s'est servi de Corinne d'une façon remarquable par la suite, comme quelques-uns d'entre vous. Vous savez, il y a un film, Dieu en enfer, il y a un livre du même titre, et elle-même, dont elle a écrit encore, Victoire à Ravensbrück. Alors, mon épouse et moi, nous avons essuyé plusieurs grandes tempêtes. Et je peux vous dire que deux de ces grandes tempêtes étaient en relation avec une trahison. Je voudrais vous parler juste d'un cas de trahison qui a déclenché une tempête. Un de mes anciens, ça c'était à Fort-de-France, a tenu absolument à dire quelque chose à la fin d'un culte. Je ne savais pas quoi, il tenait. Et quand il a pris la parole, il m'a accusé publiquement d'être un voleur. Alors, pour vous imaginer un peu la réaction, vous avez une salle qui est pleine, et vous, les chrétiens entendent que leur pasteur, c'est un voleur. Alors, je voudrais juste vous dire que c'était mensonge et calomnie, mais c'était plus, c'était une trahison. Parce que j'aimais ce frère. Je l'appréciais, j'avais confiance en lui. Et là, il me joue ça. Frères et sœurs, je sais donc ce que c'est que de subir une répercussion quand nous sommes trahis d'une façon ou d'une autre. Alors, je voudrais juste vous dire, je reviens encore une fois sur le fait, que nous pouvons donc provoquer nos tempêtes nous-mêmes. Je voudrais citer deux raisons, deux causes plutôt. Il y en a certainement d'autres. La première cause, c'est simple, notre désobéissance envers la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit ceci, et moi je fais cela. Je voudrais noter, et je m'adresse aux jeunes qui sont encore en fleur de l'âge, ils sont un peu plus jeunes que moi, et je voudrais vous dire, vous pouvez aller de l'avant, de l'ennui, si vous allez épouser un inconverti. C'est une façon de provoquer des tempêtes. Alors, la désobéissance envers la parole de Dieu, et puis donc, je dirais en deuxième place, nos mauvais choix. Alors, frères et sœurs, vous devez savoir que nous tous, nous faisons des choix. Et nos choix ont des répercussions. Je pense au pasteur Greg Laurie. Son histoire est racontée dans le film Jesus Revolution. Si jamais vous avez l'occasion de voir donc la version française, faites-le. Au fond, en retraçant l'histoire, il s'est converti pendant le réveil des hippies, donc c'était au début des années 70. Greg Laurie dit ceci, nous faisons nos choix, puis nos choix nous rattrapent. Bon, il le dit un peu différemment en anglais, mais c'est difficile de le traduire, mais c'est le sens. Nous faisons nos choix et nos choix nous rattrapent. Nous devons savoir que nos choix auront toujours des répercussions, soit positives, soit négatives. Alors, lors de notre première grande tempête, j'avais une part de responsabilité. C'est pourquoi je vous dis que nous pouvons les inviter nous-mêmes. Quelle était mon erreur? Eh bien, je n'ai pas consulté le Seigneur. J'ai fait exactement la même chose que Josué et les anciens à un moment donné, ce matin, donc, que j'ai lu dans le livre de Josué, Et quand vous arrivez donc dans les pages, chapitre 9, vous avez l'histoire des Gabaonites, n'est-ce pas? Vous connaissez probablement. Et donc la Bible nous dit qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel. C'était ma faute, mon erreur. Dans mon enthousiasme, je me suis laissé entraîner et j'ai invité un gros orage, non plus qu'un orage, un tourbillon. Et vous savez, ce qui est triste, c'est que ce tourbillon n'a pas seulement fait mal à mon épouse et moi, mais aussi à l'Église. Donc, par nos choix et par nos décisions qui ne sont pas inspirées du Saint-Esprit, nous pouvons non seulement nous plonger nous-mêmes dans les cyclones, mais nous pouvons aussi entraîner toute une congrégation. Alors, nous allons passer au numéro 2, point numéro 2. D'ailleurs, je pense que j'ai oublié de... Voilà, ça c'était le texte que nous avons lu. Oui, c'est pas beaucoup de tribulation. Vous le savez maintenant, vous êtes avertis. Voilà. Et puis donc, une forme de tempête particulièrement vicieuse et douloureuse, celle causée par une trahison. Alors ça, je saute. Et puis donc, vous avez ici notre ami grec. Comme moi, il a perdu entre-temps un peu ses cheveux. Mais ces conseils sont toujours très précis. Voilà. Et puis, donc, qu'est-ce que nous avons ici? Ah non, nous ne sommes pas encore là. Ça vient. OK. Numéro 2. Notre désir de fuir nos tempêtes. Je voulais savoir, petit sondage, est-ce qu'il y a des gens qui aiment les tempêtes? Parce que je voudrais vous serrer la main et ne pas la laver pendant une semaine. Si vous êtes donc une exception. Il n'y a personne? Pas de volontaire? Non, d'accord. Alors, je voudrais donc lire la déclaration de David. David faisait partie de ceux qui n'aiment pas les tempêtes. Est-ce que vous voulez lire avec moi encore une fois les versets 7 à 9? Replongez votre regard dans la Bible et nous lisons ici donc le désir de David, un désir inné en chacun d'entre nous. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin. J'irais séjourner au désert. Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Alors, vous savez, nous avons ici, nous ne pouvons pas vouloir à David d'avoir ce désir parce que nous nous retrouvons en lui, n'est-ce pas? Nous aussi, nous avons ce même désir, fuir les difficultés, éviter les tourbillons, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que le Seigneur ne nous a pas donné des ailes de colombe. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a poussé des ailes de colombe dans mon absence? Non? Personne. Mais je voudrais vous parler d'au moins deux autres genres de ailes que le Seigneur nous a donné. Alors, excellent. Tout d'abord, nous avons les ailes protectrices du Seigneur pour nous y abriter. Alors, nous trouvons cela. Si vous tournez les pages de votre Bible, juste une page, je pense, 57, le psaume 57, et le verset 2. Alors, le verset 2 est un peu plus long que ce que je cite. Je cite ceci, « Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Alors, voilà les ailes que je peux vous recommander. Abritez-vous sur les ailes du Seigneur. C'est là que vous trouvez le repos et le calme. Et puis, il y a encore une deuxième façon de voir les ailes. Alors, où est-ce que vous êtes? Ça, c'est les ailes de l'aigle. Et vous connaissez très très probablement le fameux passage dans Ésaïe chapitre 40, le dernier verset 31. Ésaïe s'adresse à un peuple, le peuple de Juda, qui a été déporté vers Babylone, et ils ont l'impression que Dieu les a oubliés, que Dieu n'est même pas au courant de ce qui leur arrive. Et ils sont donc déboussolés. Et c'est à un tel auditoire que le prophète Ésaïe, il s'adresse quand il dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Et puis, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà donc les deux genres d'aigles que le Seigneur veut nous donner. Les aigles protectrices du Seigneur pour nous abriter, pour nous trouver à l'abri, donc sains et saufs. Et puis les ailes de l'aigle pour nous élever au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos circonstances et pour planer là. Mais vous savez, David n'était pas le seul, donc a souhaité la fuite. Il y a une servante que vous rencontrez dans le 16e chapitre de la Genèse, elle s'appelle
Agar,
voilà. Et Agar, donc, quand elle était maltraitée par sa maîtresse, elle a pris la fuite. Et nous disons qu'Agar s'enfuit loin d'elle, c'est-à-dire de Sarai. Et vous savez que Agar signifie fuite. Elle vivait donc en conformité avec la signification de son nom. Et il me semble que j'avais partagé ça ici une fois. Ça ne fait rien, parce que ça, c'est une bonne illustration. Il y a des années, lors de la première conférence européenne pentecôtiste, il y avait un invité de marque, il s'appelait David Wilkerson. Là encore, la jeune génération du prolétaire, David Wilkerson, le héros de la croix et le poignard, la vieille génération s'en souvient certainement, n'est-ce pas? Alors donc, nous avions David Wilkerson, et David s'est adressé au couple pastoral. Annick et moi, nous étions là, donc nous avons eu l'occasion, le loisir de l'écouter, et je vous avais partagé ça. Et a prêché sur le thème « Travaillez avec crainte et tremblement à votre mariage. » Non seulement à votre salut, mais aussi à votre mariage. Et vous savez, il a partagé une expérience personnelle. Il a raconté comment son épouse avait développé un cancer du sein, et si ma mémoire est fidèle, elle a subi l'ablation de ses deux seins. Elle a subi donc toute une thérapie, et elle est devenue susceptible, elle soupçonnait que son mari avait une liaison avec sa secrétaire, et les deux se chamaillaient souvent, donc ce n'était pas directement l'idéal, le couple idéal en ce moment-là. Et puis David a reçu une invitation comme intervenant lors d'une conférence en Californie, le couple est allé dans leur chambre de motel, ils se sont encore disputés. Il fallait aller à la réception qui précédait la prédication avec un sourire artificiel plastifié. Et donc, à un moment donné, David se lève en disant « Excuse-moi ». Et il se rend à la gare des bus. Vous savez, on est tout près de la frontière mexicaine. Et il dit « Seigneur, je n'en peux plus ». Il était au beau milieu d'une tempête. Et il a voulu acheter un billet, tout simplement prendre la fuite. Exactement comme nous le lisons ici dans notre psaume, n'est-ce pas? Et tandis qu'il attendait son tour, le Seigneur lui parle. Est-ce que vous croyez que Dieu parle encore?
Amen.
Ah oui, donc il vous a certainement déjà parlé. Et parfois nous ne voulons pas écouter. Et le Seigneur dit, mais ne sois pas un imbécile, c'est quand ta femme, c'est elle qui souffre. Alors lui, il a rebroussé chemin, il est arrivé juste dans 14, les organisateurs cherchaient déjà leur orateur, et il a chuchoté à l'oreille de son épouse, on va faire une nouvelle lune de miel. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a peut-être ici des couples qui auront besoin de faire une nouvelle lune de miel. Alors, frères et sœurs, cet après-midi, ce soir-là, David a prêché sur le psaume 55. Et il a souligné le fait que vraiment il a ressenti une onction. Une fois qu'il a fait marche arrière, n'est-ce pas? Il a ressenti une onction. Et le désir de fuir était parti. Alléluia. Frères et sœurs, lors de notre premier grand ouragan, Annick et moi, donc, Annick, elle a dit, je plie bagage. Je pars. Elle en avait assez. La tension était grande. On avait des gens contre nous. C'était vraiment très, très difficile. je plie bagage, je pars. Et c'est alors que quelque chose s'est passé. Elle s'est souvenue d'une prophétie qu'elle avait reçue lors de notre premier congé par un frère dont les paroles sont exactes. Et cette parole disait entre autres, même si tu te trouves face au mur, tu ne choisiras pas ton propre chemin. Ça a parlé. Donc c'est revenu. Et donc elle a renoncé à sa fuite, n'est-ce pas? Je voudrais vous dire par là qu'effectivement, nous pouvons tous éprouver le désir de vouloir fuir nos difficultés. Mais donc, entre parenthèses, lorsqu'elle a reçu cette parole, il n'y avait pas d'alerte, il n'y avait pas d'avis de tempête. Hein? Tout était calme, n'est-ce pas? Donc, de toute façon, ce que j'aimerais dire ce matin, si tu te trouves ici et tu te sens concerné par ce que je dis, tu te trouves peut-être au beau milieu d'un tourbillon et tu as envie de fuir, eh bien donc, prends courage et apprends par ce que nous allons voir encore ensemble. Parce que nous avons encore le troisième point. Et le troisième point, c'est comment gérer nos tempêtes. Comment gérer ces tempêtes de façon victorieuse. Alors, le même David, qui dans les premiers versets veut fuguer, et nous donne des conseils dans le reste de notre psaume. Et je pourrais dire, nous allons voir cela, la démarche victorieuse de David peut se résumer en une phrase. Et ça c'est quoi? Vous pouvez la dire, n'est-ce pas? Il a cessé de se focaliser sur son problème, sur son ouragan, sur sa tempête, et il s'est concentré sur son Dieu. Vous savez, nous pouvons gonfler nos problèmes à un tel point que nous diminuons en même temps notre Dieu. Mais je voudrais, vous savez, il y avait ce film qui disait « Chéri, j'ai rétréci les gosses » et « Chéri, j'ai agrandi les gosses », peut-être les avez-vous vus à l'époque. Vous savez, il y a des gens qui rétrécissent Dieu et qui agrandissent leurs problèmes. Il n'y a personne qui l'a. Mais alors, je voudrais voir avec vous quelques pas que David a entrepris pour se sortir, pour rester debout et pour se sentir victorieux de sa tempête. Alors, la première chose, il s'est rabattu sur Dieu. Est-ce que vous voulez lire les versets 17 et 18 du psaume 55? Versets 17 et 18. Et moi, je crie à Dieu. Et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que j'ai noté ici? Ça, c'est la persévérance de la prière. Quand il dit le soir, le matin, à midi, donc il répète, il crie continuellement vers le Seigneur. Vous avez certainement entendu certaines personnes dire, si tu répètes la même requête deux fois, c'est que tu n'as pas la foi. Vous avez déjà entendu ça. Donc, autrement dit, il ne faut jamais prier la même chose plus qu'une fois. Je ne suis pas d'accord. David n'aurait pas été d'accord. Le Seigneur Jésus n'aurait pas été d'accord parce qu'il a répété la même prière dans le jardin de Gethsémané avant d'aller à la croix. Il a répété la même prière. Alors, je pense que nous devons apprendre à persévérer dans la prière jusqu'à ce que la réponse vienne, n'est-ce pas? Alors, et la deuxième clé se trouve au verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Vous avez un conseil? Vous avez une promesse, une assurance. Alors regardez, remettre notre sort à l'Éternel, c'est une autre façon de dire se décharger sur lui. C'est ce que Pierre nous recommande. Et j'ai lu un article de Joyce Meyer qui dit qu'elle et Dave, son mari, ils avaient été mariés depuis plus de 50 ans, béni soit le Seigneur pour un mariage qui tient si long, n'est-ce pas? Et elle dit que chaque fois qu'elle allait voir son mari avec un problème, son mari avait toujours la même réponse. décharge-toi. Alors elle a dit à un moment donné, elle était un peu agacée, donc toujours entendre la même chose, mais finalement elle a constaté, c'est bien ce qu'il faut faire quand on a un problème, décharge-toi. Il y a encore une autre façon de dire la même chose, remets ton sort à l'Éternel. C'est la façon dont le Seigneur a parlé à Stéphanie Reeder. Alors il y a peut-être quelques-uns qui savent qui est cette dame. C'est une scientifique, mais elle est aussi pasteur assistante de l'église Nouvelle Vie avec Claude Boude. Et dans un séminaire, elle a raconté comment elle voulait, elle se débrouillait avec un problème. Elle voulait le résoudre elle-même. Et puis le Seigneur lui a dit, mais laisse-moi être Dieu. J'ai beaucoup aimé ça. Laisse Dieu être Dieu. Remets ton sort à l'Éternel. Tes soucis, ce qui te tracasse, laisse Dieu être Dieu. Et puis, bien sûr, nous voulons aussi insister sur la deuxième partie de ce verset, de ce conseil. Quand nous lisons, il te soutiendra, car il ne laissera jamais chanceler le juste. Nous pouvons donc compter sur l'intervention du Seigneur. Autrement dit, tu vas sortir victorieux de ta tempête. Alléluia. Alors, quelqu'un a suggéré que le Seigneur s'occupe de nos problèmes de deux manières. Est-ce que j'ai ça encore? Alors, donc c'est ça. Décharge-toi et laisse Dieu être Dieu. Les deux façons, alors, soit il enlève le problème, ou il le résout, c'est une façon. La deuxième, c'est, il te laisse passer par ce problème, donc il t'aide cependant à l'affronter, et tu le traverseras de façon victorieuse. Il te soutient alors que tu n'y feras face. J'aime bien ça, oui. Alléluia. Mais surtout, ce que je voudrais souligner, frères et sœurs, c'est que nos tempêtes nous laissent plus forts lorsque nous les abordons de la bonne façon. C'est ce que nous trouvons, par exemple, le pasteur Rick Warren, il a dit, utilise tes difficultés pour grandir spirituellement. Et lorsque nous les affrontons avec l'aide du Seigneur, nous sortirons toujours plus mûrs, plus matures, plus forts, plus spirituel. Alors, un proverbe hollandais dit ceci, et je l'ai ici quelque part, une mer calme n'a jamais fait de bon marin. Autrement dit, si vous êtes privé de tempête, d'eau agitée, dans ce cas-là, vous ne deviendrez pas un chrétien fort, enraciné. Vous avez besoin des tempêtes pour grandir. Merci pour vos amis. Voilà. Et puis, juste la semaine dernière, j'ai reçu la pub pour un livre. Au fond, c'est un témoignage. Un témoignage qui... une femme qui parle que sa famille passait par un long fleuve tranquille. Jusqu'à sa naissance de leur deuxième enfant. Une fille autiste. Elle a dit, l'enfer a éclaté. Tout à coup, c'était le tourbillon. Et à la fin de cette pub, j'ai trouvé cette phrase. Naviguer dans le calme est plaisant. Mais oui, on ne peut pas dire le contraire. Mais cela ne permet pas d'explorer des mondes inconnus. Vrai ou non? Alors, ces déclarations font tout simplement écho aux paroles d'un Jacques, d'un Pierre, d'un Paul. Et je voudrais juste vous donner une parole de Paul. Nous touchons à la fin. Merci pour votre patience. Il dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Alors je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Paul ne dit pas, nous nous glorifions dans les afflictions. Ce qui serait déjà très positif. Non, il dit, nous nous glorifions des afflictions. Autrement dit, les afflictions sont notre gloire. Et puis, Paul il complète en disant, et je voudrais remplir cela avec vous, voilà, sachant que l'affliction produit persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Et juste encore quelques déclarations de David. Il exprime sa certitude. Lisez avec moi le verset 17b, toujours dans la même, le même psaume. Alors, quelques déclarations de psaume, de David dans ce psaume. Il dit, l'Éternel me sauvera. Verset 19, il me délivrera. Et verset 19 encore, il me rendra la paix. Je vous demande, quand vous êtes face à un problème, est-ce que vous êtes comme moi, on commence à être continuellement préoccupé, occupé dans son esprit avec ce problème?
Oui.
Est-ce que ça vous arrive?
Oui.
Eh bien donc, c'est l'absence de la paix. Alors le Seigneur veut nous donner la paix au milieu de la tempête. Il me rendra la paix, et il s'agit d'une paix qui dépasse toute intelligence. Alléluia. Et puis nous avons encore une magnifique déclaration au verset 20. Et lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Et je voudrais te dire, Dieu est toujours sur son trône. Au milieu de ton ouragan, il est là sur le trône et il le sera jusqu'à la fin de l'éternité. Alléluia. Alors, il y a peut-être ici des chrétiens qui se souviennent encore du cœur. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne son mort. Alors, ce matin, nous voulons terminer avec cette déclaration. Par la grâce de Dieu et sa force, je reste debout dans ma tempête. Alléluia.
Alléluia.
Avant d'offrir une prière pour ceux qui en ont besoin, on va chanter notre Dieu, règne encore. Bien.